Sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans la Méridienne, nous allons parler d'escalade. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Matt. Bonjour Matt.
Bonjour.
Alors Matt, tu as choisi d'interviewer Monsieur Bolzon. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, qui sera aujourd'hui notre expert en escalade. Et avec toi dans ce studio, il y a également Émilie. Bonjour.
Bonjour.
Et Ilona, bonjour.
Bonjour.
Et donc je donne la parole à Émilie pour commencer cette émission.
Donc bonjour Monsieur Bolzon.
Bonjour.
Merci d'être venu. Nous souhaitions vous inviter à la radio pour parler escalade.
Voilà. Car nous avons peut-être dans ce studio une fan d'escalade.
Matt, ouais, qui je crois fait de l'escalade.
Oui.
Ouais, t'en fais depuis combien de temps toi?
J'ai commencé au collège. Et puis j'ai commencé à prendre des cours il y a quelques mois et j'ai beaucoup aimé. Depuis combien de temps faites-vous de l'escalade et à quel âge avez-vous commencé l'escalade?
Alors moi j'ai été séduit par l'escalade quand j'étais adolescent. J'ai fait un stage UCPA en montagne. J'ai commencé à grimper à ce moment-là. Ensuite j'ai eu un long temps d'interruption. Mais j'avais toujours un petit peu ça en tête et il y a une quarantaine d'années, j'ai frappé à la porte du club alpin français Touraine à Tours. Et donc j'ai rencontré le petit milieu de gens passionnés par la montagne et l'escalade à Tours. Et donc personnellement, moi je grimpe depuis une quarantaine, depuis 40 ans, voilà. Donc ça commence... Ça commence à faire. Alors du coup, moi, je voulais te poser une autre question. Tu fais de l'escalade au collège. Tu as commencé au collège, donc dans quel collège?
Dans un collège en Île-de-France, lycée Aubrac.
Sur un mur d'escalade, alors?
Oui.
Et aujourd'hui, tu en fais où?
J'en fais dans la salle d'escalade à côté du Ikea.
Oui, à Touraine Escalade. Donc,
oui,
du coup,
Escalade.
D'accord. Oui, oui, ben, je connais cette salle et les personnes qui. Quelques-unes des personnes qui s'en occupent également. Voilà. C'est une très belle salle.
Et du coup, vous nous avez dit que ça faisait 40 ans que vous faisiez de l'escalade et j'imagine pas que dans une salle.
Alors, je fais de l'escalade. Moi, je conçois l'escalade en salle plus comme un outil d'entraînement, d'entretien. Et je suis plus axé sur l'escalade extérieure, en falaise. Donc, à Tours, proprement dit, malheureusement, on n'a pas beaucoup de falaises. Donc, déjà, il faut toujours se déplacer un petit peu. Et puis, j'adore faire de l'escalade... En montagne. J'aime bien aussi l'escalade bloc, des blocs de faible hauteur. Donc là, pour ça, il faut se déplacer, il faut aller à Fontainebleau. L'escalade qui me fait le plus vibrer, c'est plus l'escalade pratiquée en nature. Quoi.
Plutôt dans les Alpes, les Pyrénées
Tous les massifs possibles, hein, parce que le bonheur de l'escalade, si on peut dire, c'est que on n'a pas une voie qui ressemble à une autre, donc quel que soit le lieu, on trouve toujours une voie sur laquelle on peut évoluer et se faire plaisir. Quoi.
Quelles émotions vous procure l'escalade quand vous en pratiquez?
Alors l'émotion, évidemment, le fait de pouvoir surmonter ses appréhensions par rapport à la gestion éventuelle du vide, le fait de pouvoir adapter ses mouvements par rapport à la difficulté. voilà un petit peu les différentes émotions. Et puis le fait de, quand on est en situation de réussir une voie, le plaisir que cela peut provoquer, quoi.
Et vous avez déjà eu peur? Vous êtes, j'imagine qu'il y a déjà eu des moments un petit peu plus insolites.
Il y a des moments qui peuvent être stressants, oui, en escalade. Il y en a. C'est quand même. On est dans le domaine d'une activité dite à risque, même si le but est toujours de pouvoir pratiquer avec un maximum de sécurité. On est dans cet espace-là, quoi. Hein, donc, les salles d'escalade sont hyper sécurisées. Normalement, il n'y a aucun risque à pratiquer par exemple, en salle. Mais il faut jamais oublier quand même les basiques qui sont le fait de bien faire son nœud d'encordement, etc. On peut toujours, y compris même dans une salle, faire des erreurs et se mettre en danger. Et donc quand on passe du milieu artificiel au milieu naturel, évidemment, on franchit un degré par rapport à cette problématique. Déjà dans un pas vers la falaise, mais ensuite, si on est en montagne, c'est encore il y a plus de facteurs à gérer. Mais bon, il ne faut pas non plus faire peur avec ça, parce que c'est aussi un apprentissage. Hein. On apprend à grimper, on apprend avec les autres, on apprend. C'est un petit peu une transmission de valeurs, l'escalade. C'est à la fois un sport individuel, mais c'est aussi très collectif, dans la mesure où on apprend beaucoup des autres.
Et vous grimpez seul en milieu naturel ou
Moi, je suis toujours avec quelqu'un, hein, sur un plan de sécurité. On peut la pratique en solo, ça existe, hein, elle est pas interdite, mais c'est pas ma pratique, quoi. Mm-hmm. Et quand je suis seul, en fait, ça m'ennuie plutôt, quoi, parce que j'aime grimper aussi pour pouvoir discuter, partager.
Y a-t-il une différence entre l'escalade et l'alpinisme?
Alors l'alpinisme, c'est l'escalade en haute montagne. L'escalade fait partie donc de l'alpinisme, mais l'alpinisme proprement dit, ça peut être aussi le fait de grimper avec piolet, crampons, de passer des pentes de neige, de glace. L'alpinisme, c'est toutes les facettes possibles du fait de pouvoir parvenir au sommet d'une montagne. À l'escalade, c'est plus un élément parmi toute la panoplie de l'alpinisme. Mais au fur et à mesure des années, en fait, l'escalade s'est petit à petit séparée de l'alpinisme. C'est ce qu'on appelle l'escalade sportive, et qui, y compris, est devenue une discipline maintenant olympique, hein, puisque dernier JO, l'escalade a fait son apparition. À Paris 2024, va y avoir aussi des épreuves d'escalade. Et les personnes qui s'entraînent pour les sportifs de haut niveau, sportifs et sportives de haut niveau qui s'entraînent pour cette compétition, ils ne font, pour la plupart, ils ne font pas du tout d'alpinisme. C'est devenu tellement une spécialisation qu'ils consacrent la plupart de leur temps à progresser sur des voies préparées à cet effet, quoi. Certains ne s'entraînent d'ailleurs uniquement qu'en salle, puisque les voies, les épreuves des JO, c'est en salle, c'est sur des prises en résine. C'est une spécialisation, enfin une différenciation qui s'est opéré depuis déjà 10, 20, 30, disons une trentaine d'années, mais qui s'accentue de plus en plus.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'une association, Club Alpin de Touraine.
Oui.
Quelle place avez-vous dans cette association?
Alors moi je suis un des responsables du club alpin Touraine. Donc le club alpin Touraine, c'est une association de multi-activités de sport montagne. Donc on en a parlé tout à l'heure, de l'alpinisme, de l'escalade, mais il y a aussi du ski de randonnée, de la randonnée pédestre, de la marche nordique, du trail, du ski de fond. Il y a un petit groupe aussi qui fait du VTT en Touraine, mais aussi en montagne. Donc on a toutes ces activités là. On a aussi de la cascade, on fait aussi de la cascade de glace, pas à Tours évidemment. Là, on va se déplacer sur les différents massifs, hein, plutôt les Alpes. Du ski alpin, c'est pas programmé en tant que tel dans les activités du club, mais il y a des personnes du club qui en font. Le but du CAF, c'est plus d'aller dans les milieux naturels ouverts, hein, c'est-à-dire sans utiliser de remontées mécaniques, etc. Quoi, hein. Donc, c'est pas du tout interdit évidemment de faire du ski alpin quand on est au club alpin. On est plein à en faire également, mais c'est pas une activité qui est programmée en tant que telle par le club. Et donc, alors malgré tout, c'est une association qui, on croit, bon, en général, ça surprend toujours quand on dit ça à Tours. Un club alpin à Tours, ça fait bizarre. C'est, je sais pas moi, c'est comme un club de voile à Clermont-Ferrand, quoi. Mais on est, il y a 350 adhérents, hein, au club alpin Touraine. Et par exemple, il y a aussi une école d'escalade d'une soixantaine de jeunes, de mineurs.
Déplacés, il y a des cars qui sont prévus pour aller directement.
Alors on fait du covoiturage quand on veut se déplacer. Par exemple, la semaine dernière, là, il y avait un séjour dans les Alpes, dans les Écrins. Ça, c'était typiquement de l'alpinisme. Il y a eu aussi de l'escalade pendant cette semaine-là, mais on s'est organisé entre nous pour réduire les frais et covoiturer.
Peut-être depuis quand existe le club?
Alors, on a fêté les 80 ans du club il y a 3 ans de ça, quoi. Voilà, donc c'est un club déjà ancien sur la place de Tours. Et d'ailleurs, au départ, en fait, c'était des... On dit que les gens du club alpin ne font pas de ski alpin, mais au départ, c'était des gens qui s'étaient organisés pour pouvoir se déplacer et faire du ski alpin, quoi. Et petit à petit, ça s'est ouvert sur l'alpinisme, parce qu'il y a une cinquantaine d'années, bon, ça, si on peut dire ça comme ça, l'escalade n'était pas encore différenciée de l'alpinisme comme on expliquait tout à l'heure, quoi. Si on faisait de l'escalade, on faisait automatiquement de l'escalade pour aller en faire en montagne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Et vous préférez l'escalade ou l'alpinisme, du coup ?
Ah ben moi, j'aime bien tout. C'est comme la musique. Je suis assez éclectique. J'aime bien les différentes facettes qu'offrent ces activités-là. J'aime pas trop, en fait, me spécialiser. Enfin. Je préfère passer d'une activité à l'autre. Et j'aime autant faire de l'escalade de bloc à Fontainebleau que parfois être sur un sommet à 3000 ou 4000 mètres d'altitude, d'être en haute montagne. Je trouve que c'est des activités qui se complètent merveilleusement bien et qui sont vraiment sympas à connaître. Et en plus, le fait d'en faire une, ça aide à mieux faire l'autre, quoi. Donc les combiner les unes aux autres, ça permet aussi d'élargir les apprentissages. Ça permet aussi de connaître toujours des personnes différentes avec qui on va être encordé, avec qui on va pratiquer. Donc c'est vraiment le côté sympa de cette activité.
Et y a-t-il un âge minimum et ou maximum pour l'escalade ?
Alors, au club, ça va de 6 ans à 87 ans, réellement. Cette année-là, on avait des cours pour à partir de 6 ans. Et le doyen du club, qui grimpe toujours, il a 87 ans. Il grimpe en salle et il est plutôt en bonne forme. Potentiellement, on peut commencer vraiment dès le plus jeune âge. Parfois, on peut observer des bébés qui ne savent pas marcher, qui commencent à ramper, à se déplacer sur un plan incliné. Et on retrouve les gestes basiques de l'escalade. Il y a des salles d'escalade privées à Tours qui accueillent des enfants vraiment dès le plus jeune âge, à partir de, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins à partir de 4 ans, quoi. On appelle ça de la baby escalade. On peut commencer très jeune, quoi. C'est un geste naturel, quoi. Le fait d'avoir envie de grimper quand on voit un obstacle, bon, c'est quelque chose que l'on a tous en nous, quoi.
Et est-ce que l'association du Club Alpin Touraine a-t-elle un impact sur la nature ou fait des gestes pour...
Eh bien, on essaie d'en avoir le moins possible. Déjà tout à l'heure en covoiturant, en ne laissant pas de déchets dans la nature, en emportant, en ramenant ces déchets. Parfois, quand on en trouve sur place, on les met dans notre sac aussi et on les emporte. Donc, on essaie d'avoir le moins d'impact possible par rapport à la trace laissée sur les parois. Si à certains endroits, par exemple en falaise, il y a parfois des interdictions de grimper à certaines époques de l'année par rapport à la nidification des oiseaux. Donc on respecte ces interdictions-là. Enfin, on essaie d'être responsable, le plus responsable possible par rapport à notre présence dans l'environnement.
En fait, c'est vrai que Matt nous pose la question, parce qu'en lisant un petit peu, on s'est renseigné sur votre site internet. Et il nous avait semblé comprendre qu'il y avait également une part un petit peu écologique, mais plutôt une implication par rapport à la préservation de la nature. Et on ne savait pas s'il y avait des missions, mis à part le fait effectivement de respecter la nature, les périodes de reproduction, ce genre de choses, ou s'il y avait des choses qui étaient mises en place autres, en fait. S'il y avait un autre message à faire passer, en fait, dans cette association pour préserver la nature. Peut-être qu'on a mal compris.
Le message, ça va être d'essayer d'être le plus respectueux possible par rapport à son déplacement, par rapport à ses déplacements dans le milieu naturel. Mais on n'est pas missionné particulièrement pour d'autres objectifs.
Tout à l'heure, vous disiez que vous montiez à 3000, 4000 au niveau de l'altitude. Est-ce qu'il y a une préparation physique avant que vous faites pour supporter ?
Alors, la préparation physique, moi personnellement, je fais toujours un peu de footing. Le fait de pratiquer régulièrement des activités de montagne, c'est déjà un entraînement en soi. Donc ça permet en général de pouvoir monter plus haut en altitude. Bon, la semaine dernière, par exemple, moi j'ai fait partie d'un séjour là d'une semaine dans les écrins en alpinisme. Les premiers jours, pour moi, c'était plus difficile, quoi, parce que il faut se réadapter. On vit en Touraine, donc on ne vit pas avec à 2000 mètres ou 2500 mètres d'altitude. Il faut se refaire un peu des globules au niveau du les premiers jours m'ont permis de me de me remettre un petit peu dans le bain, dans ce qu'on appelle une acclimatation, quoi. Hein, donc, mais une fois qu'on est acclimaté, il n'y a pas de problème particulier normalement pour la moyenne des personnes, quoi. Et puis quand on a le souvenir aussi, le fait aussi de savoir un peu comment son corps réagit par rapport à l'altitude, ça permet aussi, ça s'inscrit un peu dans la mémoire et ça permet aussi de parvenir plus facilement à ça, quoi. Le fait de se sentir bien en haute montagne. Bon, parce qu'évidemment, si on place quelqu'un qui n'est jamais allé en altitude à 4000 mètres d'emblée, il aura des difficultés respiratoires, quoi.
Est-ce que vous montez ailleurs qu'en France ? Est-ce que vous grimpez un peu partout dans le monde ou...
Alors, on voit parfois en Italie, en Suisse, hein, toujours sur le massif alpin. Cet hiver, là, il y a un petit groupe qui a fait un raid de ski de randonnée en Autriche. On a fait de la cascade de glace dans le Val de Cogne. À Cogne en Italie, c'est de l'autre côté par rapport à la France, c'est de l'autre côté du tunnel du Mont Blanc par rapport à Chamonix. Et donc, par le passé, il y a eu parfois quelques séjours ou expéditions en Bolivie ou au Népal. Ah, mais c'est plus rare et ça l'est d'autant plus par rapport aux dernières périodes que l'on a connues. Mais c'est pas une pratique habituelle du club. En général, c'est plutôt les massifs de montagne en France. Faut pas oublier le massif central aussi, hein, où il y a vraiment de en particulier de l'alpinisme hivernal dans le massif du Sancy, qui est vraiment très très intéressant. Donc là, c'est relativement plus proche, hein, en termes de déplacement, d'empreinte carbone, etc. Les Pyrénées, les Alpes françaises, et un petit peu plus Suisse et Italie essentiellement.
Les Pyrénées,
quoi?
Je sais pas. Non, je me dis peut-être que vous êtes amoureux des Alpes.
Non, j'ai pas. Moi, je suis amoureux de tous les massifs montagneux. L'avantage des Pyrénées, c'est que c'est un petit peu moins fréquenté que les Alpes, justement, et que c'est un aspect un peu plus sauvage et un peu plus décalé par rapport à ce qu'on fait habituellement. Enfin, on a plus l'assurance. De trouver des voies où on va être seulement avec les personnes avec qui on a décidé de les faire, parce que parfois la surfréquentation ou la fréquentation importante sur un site d'escalade ou en montagne, ça peut parfois être problématique, même en termes de sécurité. Mais des fois, on fait aussi ces activités-là pour se couper par rapport au quotidien, et donc c'est quand même plus sympa quand il y a un peu moins de monde. Bon, ben c'est comme on prenait l'exemple du ski alpin. Le plaisir de faire du ski alpin est important, mais quand on fait ça sur une station où il faut faire la queue pendant une demi-heure au remont de pente ou autre, et où les gens se comportent comme si on était dans le métro à Paris, c'est un peu lourd, quoi. Donc le fait de trouver des lieux où on puisse pratiquer dans une certaine tranquillité, en connivence avec la nature, c'est quand même fort, quoi. Et ça, on arrive à le trouver. On peut le trouver, y compris par exemple sur les circuits d'escalade de la forêt de Fontainebleau, où il y a pourtant beaucoup de grimpeurs. C'est très fréquenté, mais paradoxalement, les circuits de la forêt de Fontainebleau, ce sont un peu des labyrinthes, il y a beaucoup d'arbres. On n'a pas toujours le sentiment, même s'il y a du monde, on n'a pas toujours le sentiment qu'il y en ait autant. Donc c'est agréable sur ce plan-là.
Et vous parliez justement de déplacement de matériel. J'imagine que vous avez des subventions, ou c'est vraiment la participation et la cotisation des personnes qui, qui adhèrent à l'association, je sais pas.
Bah, essentiellement, c'est les cotisations de l'association et l'investissement personnel des adhérents. Bon, on est soutenu un petit peu financièrement par les collectivités territoriales, mais bon, ça reste faible par rapport à... Bon, c'est appréciable, hein, évidemment, hein, ce que l'on a, mais en général, on compte plutôt sur nous-mêmes, quoi.
Et par curiosité, pour adhérer au club, il faut compter la participation se chiffre à combien ?
Alors, pour la licence, c'est autour de 100 euros. Hein, on paye une carte d'accès aux différentes salles, si on veut grimper en salle, qui est environ d'une cinquantaine d'euros à l'année. Donc ça fait aux alentours de 150 euros, hein, pour le grimpeur de base qui veut pouvoir grimper. Avec ça, on a accès à un créneau d'escalade tous les soirs dans les salles d'escalade de l'agglomération. Et ensuite, on se partage les frais dès qu'on se déplace sur un massif ou un autre, hein, les frais de transport et d'hébergement. On essaie de réduire, et puis on essaie de mettre en place aussi des activités qui sont parfois encadrées par des professionnels. Donc le professionnel, il faut le payer, donc on se partage les frais du professionnel, mais on essaie de faire en sorte d'accéder au plus de possibilités avec le moindre coût. Bon, et le club a aussi un petit peu de matériel qui prête quand même à ses adhérents, des cordes, etc. Mais on n'a pas les moyens d'équiper de pied en cap un débutant, quoi. Puis il y a toute la gestion du matériel aussi au quotidien qui n'est pas évidente. Donc, alors, sur ce plan-là, il y a aussi différentes... C'est plus facile de s'équiper pour être un grimpeur que pour être un alpiniste. Hein, il y a beaucoup plus... et l'équipement est plus complet et coûte plus cher en alpinisme, même s'il y a une partie du matériel qui est commun, comme par exemple les baudriers, les mousquetons, etc. Ça sert aussi bien en alpi qu'en escalade.
Alors moi j'ai une question sur ce matériel, parce que peut-être que parmi nos auditeurs il y a des personnes qui n'ont jamais fait d'escalade. Donc vous avez parlé de baudriers, de mousquetons, de cordes. Est-ce que vous voulez nous dire plus en détail quel est ce matériel et à quoi il sert ?
Alors la corde, les mousquetons, le baudrier, bah, c'est pour assurer sa sécurité. Sur une paroi, sur une falaise. Il y a des points d'ancrage, soit il y a des points d'ancrage qui sont déjà installés, soit on les installe nous-mêmes au fur et à mesure, mais la plupart du temps on pratique sur des falaises qui sont déjà ce qu'on appelle équipées, hein, c'est-à-dire qu'il y a des petites broches qui sont en place dans lesquelles on passe un mousqueton, ou ce qu'on appelle une dégaine, c'est-à-dire un mousqueton, une sangle et un autre mousqueton. On passe la corde dans la dégaine, et à partir de ce moment-là, on bénéficie d'une sécurité minimum. Mais il faut au moins être deux personnes. Il y a une personne qui grimpe et l'autre qui tient la corde, qui passe dans un appareil d'assurage, lequel appareil d'assurage est relié au baudrier que chacun porte. Il faut aussi avoir, dès qu'on est en falaise, il faut aussi porter un casque, parce que soit à cause d'une chute qu'on peut éventuellement faire et se taper éventuellement la tête contre la paroi, soit éventuellement en cas de chute de pierre. Donc il est nécessaire de porter un casque quand on est en falaise. Et a fortiori en montagne. Donc ça, c'est le matériel de base. Et puis l'autre matériel que les grimpeurs doivent sur lequel les grimpeurs doivent investir, c'est les chaussons d'escalade. Donc pour, par exemple, deux personnes qui veulent faire de l'escalade, le matériel de base, en allant de, je sais pas moi, de la tête aux pieds, ça va être donc le casque, le baudrier, la corde, un certain nombre de dégaines, hein, le petit ensemble dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire deux mousquetons plus une sangle, quelques mousquetons aussi à vis pour pouvoir faire ce qu'on appelle des relais ou faire une manœuvre quand on arrive en haut d'une falaise, et les chaussons d'escalade. Et donc, une fois qu'on a ce matériel-là, en y prenant soin, il doit durer normalement plusieurs années. Hein, ce qui s'use le plus rapidement quand on grimpe fréquemment, ce sont les chaussons d'escalade. Il y a aussi possibilité de faire du ressemelage, etc. Donc voilà. Donc l'escalade, c'est une belle activité qui ne nécessite pas trop d'investissement financier. Je sais pas, par rapport à la voile, par exemple, je pense à cette activité-là. Bon, ça demande un peu plus d'investissement que le fait de faire du footing ou de la course à pied, mais ça reste raisonnable.
Est-ce qu'il y a des contre-indications formelles pour faire de l'escalade? Je pense par exemple au diabète ou à l'épilepsie.
Alors non. Moi, je connais des personnes qui étaient dans ce cas-là et qui peuvent pratiquer de l'escalade, voire même de l'alpinisme. Mais là, il faut l'avis médical plus quand même pour l'alpinisme. Mais dans ce que vous avez cité, ça n'empêche pas du tout de faire de l'escalade.
Tout à l'heure, vous parliez de la condition physique quand même, de se maintenir dans une bonne condition physique, autant que faire se peut, pour grimper. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a un travail sur le souffle aussi particulier, sur le fait de grimper, d'anticiper peut-être la prise suivante, du coup de maintenir un effort, de tenir dans une position, est-ce qu'il y a un travail sur le souffle?
Alors, je pense que en général, on a le cardio qui s'accélère quand on voit une difficulté qui s'approche. Ce qu'on dit en escalade, c'est qu'il faut être rapide dans les parties difficiles et plutôt lent dans les parties faciles. Enfin, lent, c'est une façon de parler. Mais donc, pour pouvoir alterner des temps où on produit un effort intense et des temps de récupération. Donc essayer de gérer ça au mieux. Ah, mais après, il y a la théorie et il y a la pratique. Une fois qu'on est confronté à la difficulté, chacun essaie. On est toujours dans une adaptation permanente, hein, de l'effort par rapport à la difficulté. Bon, le fait de beaucoup pratiquer, ça entraîne. Ça accentue aussi l'endurance, l'expérience, le niveau. Hein, on n'a pas trop parlé de ça, de niveau en escalade. Il y a vraiment, on a tous les niveaux, hein, du niveau débutant au niveau des professionnels. On a une palette de difficultés qui est énorme. Le gros avantage de l'escalade, c'est chacun peut se faire plaisir par rapport à son niveau de difficulté et choisir son niveau de difficulté. On a tout à fait le droit de faire de l'escalade loisir et sans pour autant se mettre en stress, quoi. Toutes les approches sont autorisées et admises. C'est une activité dans laquelle il y a en fait un grand, grand sentiment de liberté, quoi, par rapport à beaucoup d'autres sports. C'est à mon avis ce qui fait sa valeur. Et c'est aussi adaptatif, on parlait des âges tout à l'heure, c'est aussi adaptatif par rapport à ça, quoi. Les très forts grimpeurs ou grimpeuses vont se faire plaisir dans des très hauts niveaux de difficulté, mais le plaisir qu'ils éprouvent, ça, nous, dans une difficulté moyenne, ça va être exactement le même, quoi. Là, ça fait des éléments communs, quoi.
Alors, qu'est-ce qui fait la difficulté d'un trajet d'escalade? Je pense à nos auditeurs qui n'en ont jamais fait. Est-ce que c'est l'éloignement entre les prises? Est-ce que c'est, bah, du coup, on se retrouve la tête en bas? Enfin, je dis n'importe quoi.
Bah non, c'est bien. Vous avez bien résumé. Hein, c'est l'éloignement des prises, leur petitesse, leur rareté, et puis l'inclinaison globale. Hein, plus c'est vertical, plus c'est difficile, plus c'est incliné, plus c'est difficile, évidemment. Et les deux combinés donnent la difficulté en escalade, quoi.
Alors comment on fait pour... c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une répétition générale du trajet avant de se lancer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cartes, en fait?
Alors, il y a des topos. Hein, il y a des petits livres, hein, qui sont édités par les grimpeurs locaux ou les comités des fédérations, donc qui donnent une indication sur la difficulté de telle ou telle voie, de tel ou tel secteur. Il y a aussi la communication entre les grimpeurs. Il y a les réseaux sociaux, et puis il y a aussi le fait quand il y a une nouvelle voie qui est ouverte, la personne qui a ouvert cette voie donne son avis sur la cotation, et ensuite les autres grimpeurs qui la répètent confirment ou non que c'est une voie de tel ou tel niveau, quoi. Alors les niveaux en escalade, ça va du 3, hein, c'est des chiffres, ça va jusqu'au 9, hein, et chaque chiffre est scindé en 3 lettres. Bon, par exemple, vous avez du 5A, du 5B, du 5C, et ensuite du 6A, du 6B, du 6C, et ainsi de suite, quoi. Et à chaque lettre supplémentaire, on franchit un niveau de difficulté. Mais donc, pour s'y repérer, pour aider les gens à s'y retrouver, donc on dispose en général de topo. Mais au début de l'escalade, quand l'escalade s'est créée, ça n'existait pas du tout. Ça s'est fait petit à petit, quoi, parce que les premiers grimpeurs, bon, là on remonte à très très loin, ils essayaient de trouver des voies sans avoir une idée a priori de ce qu'ils allaient trouver, quoi.
Mais est-ce que ça veut dire qu'à partir de ces topos, vous anticipez sur « Ah bah tiens, là, il va falloir que je fasse tel geste ».
Oui.
C'est-à-dire vous préparez votre chorégraphie, si on peut dire
Alors, pas par rapport au topo. Le topo, il va donner une idée de la difficulté de la voie. Hein, les gestes, c'est plus quand on est au pied de la voie, quand on observe la voie d'escalade, on essaie d'imaginer à l'avance les gestes qu'il va falloir effectuer pour pouvoir grimper. Ça s'appelle de la lecture, hein, lecture de voie. Alors, le problème de la lecture de voie, c'est que ça va jusqu'à une certaine... Quand on est au pied d'une voie, si la voie fait 40 mètres, on va avoir une idée a priori de la lecture de voie sur les 5, 10, 15 premiers mètres. Après, c'est plus difficile d'anticiper. Donc, en fait, on essaie d'anticiper au mieux le début de la voie, et au fur et à mesure qu'on grimpe, après, on reprojette l'anticipation sur la suite. Donc, on effectue ces mouvements tout en pensant à ceux qu'on devra effectuer par la suite. Alors ça, c'est valable pour une voie dans laquelle on n'a jamais grimpé. Ça s'appelle grimper à vue. Par contre... une fois que la voie est connue, c'est différent, parce que là, les mouvements sont connus à l'avance. On peut aussi, dans certaines perspectives, on peut aussi observer un grimpeur ou une grimpeuse qui effectue la voie. Et donc ça donne des indications sur la façon dont il faut passer. C'est pas la même chose que de grimper à vue quand on n'a jamais vu quelqu'un dans telle ou telle voie.
Et quand vous grimpez dans les hauteurs, du coup, est-ce que vous êtes tenu d'informer les forces de l'ordre que vous montez au cas où il y aurait un accident ou quelque chose ?
Non. Heureusement. Heureusement qu'on est encore dans un cadre de liberté par rapport à ça. Après, ce qui est important, c'est de savoir si on est dans un lieu où déjà le téléphone passe. Hein, c'est pas toujours le cas. La semaine dernière, là, quand on était en pleine montagne là, dans les écrins, ça passait pas du tout. Donc, on avait quand même un guide qui était avec nous, mais qui n'était pas sur toutes les courses en même temps, parce qu'il y avait plusieurs personnes sur ce secteur-là qui a une radio qui, elle, peut permettre d'avertir directement les secours s'il y a un problème. Mais donc, parfois en falaise, même dans des petites falaises, le téléphone ne passe pas toujours de la meilleure des façons. Donc ça, il faut toujours le vérifier à l'avance, hein, si. et agir en fonction de ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est toujours utile d'être quand même à plusieurs plutôt que d'être évidemment tout seul, là où on est très très fragile. Mais même quand on est à deux personnes, un petit groupe... deux personnes, s'il y a une personne qui se blesse tout de suite, c'est difficile. Et si le réseau ne passe pas, parce que l'autre personne indemne va devoir prévenir les secours et donc laisser la personne blessée toute seule. Donc ça, c'est pareil. Alors, il ne faut pas non plus faire du catastrophisme, hein, mais c'est pour ça qu'il faut toujours aussi penser à ça avant. Enfin... ça fait partie des choses à checker avant de se rendre sur tel ou tel lieu. Bon, c'est important aussi d'avoir une petite pharmacie dans son sac à dos. C'est mieux d'être aussi formé sur les premiers secours. Voilà. Donc bon, mais ça c'est un problème que le milieu se pose parce que effectivement en montagne, il y a plein d'endroits où le téléphone passe pas du tout, quoi. Et bon, il y a possibilité d'acheter des téléphones satellitaires, etc. Mais c'est super cher, quoi. Donc, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un téléphone à 1 500 €. Donc, même si évidemment la vie n'a pas de prix, mais c'est une problématique un peu en ce moment qui se pose, en tout cas dans le milieu. Dans le milieu de l'alpinisme.
Peut-être mettre une dernière question.
Je me posais la question, pourquoi avoir accepté cette interview ?
Parce que ça me faisait plaisir de rencontrer des personnes qui se posent des questions sur l'escalade. Moi, j'ai été touché par cette demande. Et donc... Et comme moi j'aime bien partager avec les gens et puis discuter de mes passions, enfin de cette activité-là que je trouve phénoménale aussi parce qu'elle permet aussi en escalade, peut-être encore plus en alpinisme, ça permet vraiment, c'est vraiment une façon de connaître les personnes en profondeur, quoi. Enfin, parce que il peut y avoir parfois des moments un peu difficiles. Enfin, en tout cas, il y a des moments intenses. Et donc, ça révèle bien la personnalité de chacun. Et en général, les personnes qui font ça sont souvent des personnes passionnées. Donc, moi, ça m'intéresse. Cet aspect-là m'intéresse et le fait de rencontrer aussi des personnes passionnées par le fait de poser des questions sur une activité, moi j'aime bien ça, quoi. Donc l'alpinisme, l'escalade, c'est un petit peu des formes aussi de ce sont des activités humaines, donc alpinisme, voilà, ça, alpinisme, escalade, ça rime avec humanisme, etc. Bon, sans rentrer dans les grandes formules, c'est ce côté-là qui faisait que j'ai pas hésité une seconde quand on m'a posé la question de participer à cette émission. Et bon, et je regrette pas parce que je trouve que ça a été vraiment sympa sur tout l'ensemble de l'émission. Voilà, et je suis très content d'avoir fait ta connaissance aussi. Voilà.
Merci beaucoup.
Matt, as-tu une idée de musique que tu aimerais faire écouter à nos auditeurs pour terminer cette émission, une chanson que tu écoutes peut-être?
Je sais pas, j'aime beaucoup le groupe Gorillaz.
Gorillaz, laquelle?
J'aime bien Dare, D-A-R-E.
Et tu vas me le faire connaître. Merci.
Alors la magie de la technologie me permet de trouver cette pause musicale que nous propose Matt. Alors on va se quitter, chers auditeurs et auditrices, sur ce choix musical. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et surtout, merci à toi, Matt, de nous avoir permis cet échange autour de l'escalade.
It's there.
back to sleep, honey. Oh,